1h à Conakry, à Nouakchott, 22h à Yaoundé. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, au sommaire de Sahel Plus, la communauté musulmane est sous le choc après l'attaque contre Charlie Hebdo. Le Cameroun appelle à un soutien international contre le groupe Boko Haram.
Je persiste à croire que la menace que représentent les djihadistes, Boko Haram et autres chebabs, ne pourra être levée que par une mobilisation au niveau international.
Reportage de Moki Edwin Kinzeka à suivre. Nous ferons également un point sur l'épidémie Ebola qui a des conséquences même ici aux États-Unis. Ebola qui a dominé la visite du président mauritanien cette semaine en Guinée. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Bion à ce micro. En France, fin de cavale dans le sang pour les responsables de l'attaque contre Charlie Hebdo. Les deux suspects dans l'attaque du journal de cette semaine ont été tués et leur otage a été libéré lors d'un raid de la police au nord de Paris. Un autre raid dans la capitale française a mis fin à la vie d'un autre individu, Hamedi Koulibaly, armé, détenant plusieurs otages dans un supermarché. Mais la police a annoncé que 3 otages ont été tués lors de cette opération. François Hollande, le président français, a salué le courage et l'efficacité des forces de l'ordre.
Je veux saluer le courage, la bravoure, l'efficacité des gendarmes, des policiers, de tous ceux qui ont participé à ces opérations. Je veux leur dire que nous sommes fiers, fiers d'eux, car quand l'ordre a été donné, ils ont porté l'assaut dans le même mouvement et avec le même résultat.
Le président français François Hollande, ici aux États-Unis lors d'une tournée dans le Tennessee, le président Barack Obama a salué la bravoure des forces françaises et réaffirmé à l'endroit de Paris l'amitié et la coopération de Washington. Le président américain a déclaré que les États-Unis resteront solidaires à la France dans la défense des valeurs qui leur sont communes, valeurs universelles auxquelles se sont attaqués les terroristes. 7 casse bleus de la MINUSMA, la force de l'ONU au Mali, ont été blessés aujourd'hui par une explosion au passage de leur véhicule près de l'aéroport de Kidal dans le nord du Mali. La mission de paix de l'ONU précise que 4 des blessés sont légèrement atteints et que les 3 autres souffrent de fractures. Selon un témoin, les casques bleus visés sont des Sénégalais. Au Nigeria, on parle d'au moins 1000 personnes tuées dans la dernière série d'attaques menées par Boko Haram. Ici à Kaba.
Le sénateur Maina Maji Lawan a affirmé à la VOA que Boko Haram a brûlé des maisons dans la ville de Baga et les villages environnants. Des milliers de résidents ont fui dans des bus bondés, certains en destination de Maïdougouri, la capitale de l'État de Borno. C'est dans ce climat qu'on apprenait hier jeudi que le président nigérian Goodluck Jonathan a lancé la campagne pour sa réélection à Lagos, fief de l'opposition. Il est l'objet de vives critiques pour son incapacité à gérer l'insurrection de Boko Haram. De son côté, le président Paul Biya du Cameroun a lancé hier un appel pour un soutien international et une action coordonnée afin de venir à bout des islamistes nigériens.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Un policier congolais, le major Paul Mouilamboué, a été inculpé d'assassinat et torture au Sénégal où il vit depuis environ un an. Il est considéré comme suspect dans l'enquête sur la mort en 2010 à Kinshasa du défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya. C'est ce qu'indique le plaignant cité par l'AFP. Il est poursuivi notamment pour homicide volontaire. Au large du Cap-Vert, 18 personnes étaient recherchées aujourd'hui suite au naufrage d'un ferry hier soir. Le navire les transportait en Praia, la capitale, et l'île de Fogo. C'est ce qu'on annonce. C'est les autorités citées par l'AFP. Il y aurait pour l'heure 4 rescapés sur les 22 personnes à bord. Nouveau remaniement en Gambie, selon un communiqué lu à la télévision d'État, le ministre de la Justice et le secrétaire général de la présidence ont été remplacés. Enfin, les chefs de la diplomatie américaine et iranienne John Kerry et Mohamed Javad Zarif vont se retrouver le 14 janvier à Genève dans le cadre d'un nouveau cycle de négociations sur le programme nucléaire de Téhéran. L'annonce avait été faite auparavant par la partie iranienne. Les deux ministres discuteront de la marche à suivre pour les équipes de négociateurs américains et iraniens qui doivent se retrouver d'abord en bilatéral du 15 au 17 janvier avant des pourparlers multilatéraux entre le groupe 5+1, États-Unis, Chine, France, Royaume-Uni, Russie et Allemagne et l'Iran sous l'égide de l'Union européenne à partir du 18 janvier selon ce responsable du département d'État. Vous écoutez VOA Afrique, la suite de nos programmes c'est Sahel Plus et Claire Morin-Gibou est en place.
Retour à la partie magazine de Sahel Plus sur VOA Afrique. La communauté musulmane française est sous le choc après l'attaque meurtrière contre le journal satirique français Charlie Hebdo. Idriss Fall a recueilli la réaction de Mohamed Enich, secrétaire général de l'Union des associations musulmanes de la Seine-Saint-Denis en région parisienne.
Notre réaction, c'est celle de tous les Français. C'est un grand émoi, un choc et entièrement solidaire avec les proches et les familles des victimes. Il n'y a aucune explication à ce qui s'est passé. Il n'y a aucune circonstance qui puisse expliquer ce qui est arrivé.
Est-ce que vous pensez que publier des caricatures du prophète mériterait un tel acte?
Non, absolument pas. On est dans un état de droit et d'un grand bénéfice aux musulmans qui bénéficient de cet état d'esprit. Les musulmans ici n'ont pas à mettre en danger que ce soit, ici ou ailleurs. Donc rien n'excuse ce qui a été fait. Bien sûr, nous avons condamné tout le temps les publications de Charlie Hebdo, parce que pour nous, ce n'est pas de la liberté d'expression. On est dans de la provocation, mais aux musulmans, on dit ceci ne doit jamais nous pousser à faire ou à réfléchir à faire des choses blâmables ou des choses condamnables.
Est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé ne va pas créer plus de difficultés aux musulmans de France dans leur vie quotidienne?
Tout à fait, exactement, puisque depuis un moment, on sent qu'il y a une pression, qu'il y a une islamophobie qui monte, que ce soit dans le discours de certains chroniqueurs, de certains journalistes. Il y a une petite minorité, cette petite minorité s'accapare le micro des télé et des radios pour verser leur haine contre les musulmans à longueur de journée. Et la semaine passée, il y a un journaliste qui a dit qu'il souhaite que les 5 millions de musulmans soient déportés de France et que chacun on l'envoie chez lui dans son pays d'origine. Est-ce que ça, c'est pas une provocation, c'est pas une insulte aux musulmans? Ce type de discours, de comportement pousse des jeunes musulmans qui n'ont pas une grande culture, une grande sagesse à commettre des bêtises qui sont complètement condamnables et qui nuisent en premier lieu aux musulmans eux-mêmes.
Mohamed Enich, secrétaire général de l'Union des associations musulmanes de la Seine-Saint-Denis en région parisienne. Le Cameroun appelle à un soutien international et à une réponse coordonnée contre le groupe Boko Haram. Le président Paul Biya a lancé un appel peu après la publication d'un message vidéo du chef de Boko Haram menaçant Yaoundé. Reportage de Moki Edwin Kinzeka, le correspondant du service anglophone de La Voix de l'Amérique, relaté par Lionel Gaïma.
Port Biya hier a reçu le corps diplomatique à Yaoundé. Selon lui, l'accord conclu avec le Nigeria voisin pour la mise en place d'une force régionale pour coordonner la lutte contre Boko Haram n'est pas encore appliqué. Le chef de l'État camerounais estime que la communauté internationale devrait être mobilisée pour combattre le terrorisme qu'il décrit comme une menace à la paix et la stabilité dans tous les pays du monde.
À menace globale, riposte globale. Telle devrait être la réponse de la communauté internationale et notamment de l'Union africaine et de nos organisations régionales. Il faut que l'on sache que la distance qui peut séparer un pays des zones de combat n'est pas une assurance tout risque. Pour ma part, je persiste à croire que la menace que représentent les djihadistes, Boko Haram et autres chebab ne pourra être levé que par une mobilisation au niveau international.
Le président Biya a demandé l'aide des Nations Unies, de l'Allemagne, de la France, la Grande-Bretagne, la Chine et la Russie, mais il n'a pas spécifié de quel type d'aide il aura besoin. Dans une vidéo postée lundi dernier sur YouTube, Aboubakar Shekau, le chef de Boko Haram, a menacé directement le Cameroun. Vêtu de noir, un turban sur la tête, Shekau a acclamé, et je cite, « Paul Biya, si tu ne mets pas fin à ton plan maléfique, tu vas avoir droit au même sort que le Nigeria ». Si le président camerounais a déjà été mentionné dans les précédentes vidéos de Shekau, c'est la première fois que Boko Haram adresse ses menaces aussi directes au Cameroun. Pour l'ambassadeur algérien à Yaoundé, Toufis Milad, cette menace est vide de sens.
Le Cameroun ne devrait pas se sentir seul, car le terrorisme, lui, est global, connaissant pas de frontières, et exige ainsi une solidarité et une riposte tout aussi globale. Je voudrais relever ici, au nom de mes pairs du corps diplomatique, que dans ce combat, le Cameroun a agi avec responsabilité et détermination, ne cédant à aucun chantage et n'offrant aux criminels aucune opportunité de réaliser leur dessein.
Le week-end dernier, le groupe nigérien s'est emparé d'une base militaire importante de l'extrême nord-est du Nigeria, sur les rives du lac Tchad, prenant ainsi le contrôle des frontières avec le Tchad, le Niger et le Cameroun. Le président Biya avait donné l'ordre de son armée d'engager des avions de chasse pour protéger une base militaire camerounaise attaquée par les islamistes le 28 décembre. Paul Biya a promis de ne laisser aucun répit aux djihadistes nigériens jusqu'au démantèlement total du groupe islamiste.
Le dossier du jour est consacré à Ebola. Les pays ouest-africains frappés par le virus ont fait de gros efforts pour enrayer l'extension de l'épidémie, mais n'ont pas atteint les objectifs fixés au 1er janvier en matière d'éradication de la maladie. C'est ce qu'a déclaré mercredi l'Organisation mondiale de la santé. Georges Léonard Sagnot.
Le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée, les trois pays les plus touchés par la maladie à virus Ebola, avait un délai de 90 jours pour isoler et traiter tous les malades contaminés par le virus et pour assurer que les enterrements aient lieu d'une manière sécurisée dans 100% des cas. Ils n'ont pas pu respecter ce délai. En Guinée, le virus s'est répandu à travers le pays, selon l'OMS. L'agence onusienne relève par contre des efforts très importants dans certains domaines, notamment le nombre de lits mis à la disposition des personnes contaminées, soit 15 lits par cas au Libéria, près de 5 en Sierra Leone et 2 en Guinée. L'OMS a rappelé que les efforts pour atteindre les objectifs fixés le 1er octobre dernier allaient se poursuivre jusqu'à ce que l'épidémie ait été enrayée. Un récent bilan de l'organisation fait état de 20 747 personnes infectées et 8 235 mortes en un peu plus d'un an dues à Ebola. La grande majorité des cas ont été enregistrés au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone, ce dernier pays étant le plus touché, avec près de 3 000 morts.
L'épidémie Ebola a également un impact économique ici aux États-Unis. Une boutique de l'État de l'Ohio vendant des robes de mariée va fermer définitivement après avoir été visitée par une infirmière chez qui le virus de la fièvre hémorragique a été plus tard détecté. L'établissement avait été fermé et désinfecté après le passage de l'infirmière, mais cela n'a pas du tout rassuré les clients qui ne viennent plus qu'au compte-gouttes. Selon la propriétaire, les gens associent désormais sa boutique à Ebola. Pour un éclairage, Timothée Donongmai a joint le docteur Patricia Yepasis Zembrou, épidémiologique à Lake Stevens, sur la côte ouest des États-Unis.
Aussi longtemps que le magasin a pris des précautions pour désinfecter les locaux et les articles, le public n'a pas à craindre quoi que ce soit sur le plan transmission, surtout qu'il n'y avait pas eu trop de contacts. Avec du sang ou bien contact cutané avec d'autres éléments.
On a vu une situation pareille à l'hôpital presbytérien de Dallas qui a soigné un certain nombre de malades de l'Ebola. Les gens ne fréquentaient plus tellement cet hôpital.
Oui, mais il faudrait aussi comprendre que le public, c'est un élément nouveau pour eux. Ils connaissent la grippe, ils connaissent comment le flou se transmet, comment se protéger contre le flou, mais Ebola, c'est tout à fait nouveau aux États-Unis. C'est plus une maladie des pays en voie de développement. Donc ici, la crainte est justifiée à cause de l'ignorance. Et quand même, on a pu prendre des précautions pour instruire les gens, les éduquer. C'est difficile. Quelqu'un peut avoir les connaissances, mais ça prend du temps pour que la personne puisse vraiment incorporer ça dans ses habitudes et puis s'assurer que non, je n'ai rien à craindre. C'est juste ce genre de peur qui essaie de miner les business et l'opinion publique.
Les États-Unis ont pris un certain nombre de mesures de protection aux frontières. Est-ce que vous pensez que cela a pu un peu atténuer la crainte ici?
Certainement, ça a dû jouer un rôle assez important, surtout que quand quelqu'un a peur, entendre des experts essayer de minimiser la crainte. Donc je crois que ça a dû servir. Et puis surtout l'éducation au niveau du public aussi, ça a aidé. Et tous les départements de santé publique ont vraiment mis beaucoup de poids pour essayer de sensibiliser leur population. Et je crois que ça commence à aller.
Docteur Patricia Yepasi-Zembrou, épidémiologiste à Lake Stevens sur la côte ouest des États-Unis. Le virus Ebola a aussi marqué la visite du chef de l'État mauritanien en Guinée. Pour Mohamed Ould Abdelaziz, l'épidémie Ebola est une menace pour le monde. Le président de la Mauritanie a appelé à plus de solidarité et à une riposte solide pour éradiquer la maladie. À Conakry, la capitale, la correspondance de Zakaria Camara.
Pour une visite d'amitié et de soutien, le président mauritanien a appelé à plus de solidarité. Mohamed Ould Abdelaziz, qui est aussi président de l'Union africaine, a alerté la communauté internationale face à la menace de Ebola. Il faut une réponse pour arrêter l'épidémie, a-t-il dit à Conakry.
Cette maladie, c'est pas seulement une maladie qui touche la Guinée, c'est une maladie qui peut toucher n'importe quel pays. Et c'est un virus aussi qui ne connaît pas les frontières. Donc nous devons répondre à cette situation, nous devons continuer à nous engager davantage avec beaucoup plus de solidarité, beaucoup plus d'engagement pour mettre fin à ces fléaux qui menacent toute l'humanité.
Les présidents guinéens et mauritaniens ont abordé des questions de coopération. Le président Alpha Condé a dit à son homologue son intention de renforcer les relations entre la Mauritanie et la Guinée dans divers domaines.
Nous avons la volonté ferme de renforcer nos relations bilatérales avec la Mauritanie et dans beaucoup de secteurs. Par exemple, nous devons tirer les leçons de l'élection de la Mauritanie avec l'Union européenne dans le domaine de la pêche. Et aussi, la Mauritanie a maintenant une exploitation minière du fer, donc nous avons aussi cette préoccupation commune.
Un sujet pas à l'ordre du jour s'est invité à Conakry, informé de l'attaque du camp des forces armées maliennes à Nampala, près de la frontière mauritanienne. Les deux présidents ont échangé avec leur homologue malien.
Nous avons téléphoné à notre frère Ibeka. C'est une situation qui nous préoccupe tous. Mais vous savez, on avait déjà dit au G8 à Deauville, le président Issoufou et moi, on avait mis le G8 en garde. On avait dit votre intervention en Libye va avoir deux conséquences. La somalisation de la Libye et la prolifération des armes dans nos régions. Parce que qui connaît la Libye sait que le gouvernement n'existait pas, c'était fictif. Le guide gouvernait avec les chefs de tribu.
Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
C'est fini pour aujourd'hui. Au montage, Michel Joseph. À la technique, Nicolas Ivanov. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec Rokia Traoré et son Koronoko. Rendez-vous lundi, 21h, temps universel, sur VOA Afrique, ou d'ici là, sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel+. Bonne soirée, bonne nuit et très bon week-end à tous.